Partons à la découverte de Fort Queyra.
Communément appelé Château Queyra, depuis son verrou glaciaire, il surplombe entre 1350 et 1400 mètres d'altitude le village du même nom dans la commune de Châteauville-Vieille ainsi que le Guil. Le piton rocheux et quadrangulaire de Fort Queyra, Quariatum, très proche du celtique Ker, qui signifie rocher, a vraisemblablement donné son nom au Queyra. Ce rocher où s'élève Fort Queyra est inscrit au monument et site naturel des Hautes-Alpes, ce qui le protège de toute exploitation commerciale ou dégradation. Fort Queyra a été construit au Moyen-Âge, au XIIe siècle, et la première trace de son existence est trouvée dans les archives des enquêtes delphinales de 1265, où l'on parle d'un château Castrum Quadratzi, dont l'entretien est réparti entre les communautés du Queyra rattachées à la province du Dauphiné sous l'Ancien Régime. Ce château delphinal appartient au dauphin du Dauphiné et est donc au dauphin fils aîné du roi de France. C'est une enceinte quadrangulaire située au sommet de la butte de Château Queyra. Il marque l'autorité du châtelain du lieu et permet de défendre la vallée contre les pillards remontant de Provence. Fort Queyra représente donc la capitale militaire et administrative du Queyra au Moyen-Âge. Elsa Giraud, de l'atelier d'histoire, répond aux questions de Laura Giraud.
Elsa Giraud, vous êtes guide conférencière et historienne. On va parler du secteur du Queyra et de Fort Queyra.
Oui, Fort Queyra, donc le fort du Moyen-Âge et également Fort Vauban de l'époque moderne que je fais visiter maintenant chaque été depuis 3 ans avec grand plaisir. C'est un très joli site, très grand, qui est aujourd'hui propriété privée et son propriétaire l'ouvre à la visite chaque année à la belle saison du mois de juin au mois de septembre. Et donc la visite libre se fait chaque jour, tous les jours à cette période-là. Et chaque semaine, au moins une fois par semaine, en juillet et août, il y a une visite guidée que j'ai le plaisir d'animer.
Et durant cette visite, que nous montrez-vous ?
Alors, moi, j'ai conçu ma visite en essayant de faire en sorte que les gens puissent vraiment s'approprier le lieu pour après terminer la visite seule, puisque je ne peux pas les emmener partout. Mais l'idée, c'est de vraiment leur donner des repères visuels et historiques pour vraiment s'approprier le lieu, c'est-à-dire reconnaître les parties médiévales, les parties modernes, les parties contemporaines et pouvoir s'imaginer la vie des soldats au fil du temps dans ce château et dans ce fort. Donc, ça dure à peu près 1h30. Et on va parler aussi bien d'architecture que d'histoire, de petites anecdotes sur les conditions de la vie dans le fort. Et puis, ben, en fonction du public, s'il y a des enfants, par exemple, j'essaye de les faire participer de façon à mémoriser la forme d'un château au Moyen-Âge, la tour ronde, le donjon carré, et puis comprendre pourquoi une architecture moderne d'un fort moderne est beaucoup plus trapue, beaucoup plus massive, plus épaisse, plus basse. J'essaye de rendre ça le plus concret possible en évoquant une attaque, une bataille, les armes, etc.
Racontez-nous l'histoire de ce fort.
Alors, le fort nous est connu à partir du XIIIe siècle, plus exactement le château, puisqu'à l'époque, nous sommes dans le Dauphiné, le dauphin souverain de ce petit état indépendant, petit état alpin qui a pour capitale Grenoble. Le dauphin a toute une administration qui tient ses comptes et on a à partir de 1265 la mention de dépenses faites pour le château de Queyra pour améliorer sa défense. On a des descriptions donc par le biais de ses comptes. On connaît l'état du château au XIIIe siècle, l'état du château au XIVe siècle qui est agrandi. Et donc tout cela a été étudié par un étudiant qui a consacré sa thèse sur les châteaux delphinaux au Moyen-Âge, les châteaux du Dauphiné. Et donc on sait qu'en 1265, on a une cour haute au sein de laquelle se trouve le donjon et puis 2 bâtiments qui servent en particulier de cuisine principale et de grange. Cette cour haute est donc à un plan à peu près carré. À chaque angle, on a des tours rondes. On sait qu'il y a un ourdage, c'est-à-dire des galeries en système de pans de bois recouverts d'enduit. Et ces galeries de défense qu'on trouve au sommet du donjon. Le château est ensuite agrandi au XIVe siècle. Et donc, on a une 5e tour qui est ajoutée, qui rajoute une portion triangulaire à cette cour haute. Et surtout, on va édifier la cour basse qui va accueillir l'écurie, le four à pain. Et c'est également l'époque où on construit la citerne. Alors ça, c'est des grands mystères du château qui n'est pas encore résolu. La citerne qui va accueillir toute l'eau pour soutenir un siège, elle est construite creusée à partir de 1398. Elle est achevée en 1426. Et il s'agit de creuser le verrou glaciaire, le rocher. Cette citerne a une capacité de 50 000 pintes d'eau. On a la mention des travaux, mais on n'a évidemment aucun détail sur les techniques utilisées, sachant que c'est le rocher qui est creusé. Voilà, donc on a quand même toute une description du château qui est assez détaillée. On sait par exemple que lorsqu'il y a les invasions des routiers pendant les trêves de la guerre de Cent Ans au XIVe siècle, vers 1368-69, la guerre de Cent Ans connaît une trêve, ce qui met au chômage, entre guillemets, quantité de soldats de cette guerre qui, plutôt que de retourner à la vie civile, font le choix de garder la même vie, mais pour leur propre compte. Et ces soldats deviennent des bandits de grand chemin qui font la route. Ce sont des routiers qui pillent et qui rançonnent, sous le commandement de nobles provençaux d'ailleurs. Et donc, dans les années 1368-69, tous les châteaux de Provence, tous les châteaux de Dauphiné, toutes les fortifications sont réarmées, renforcées pour contrer ces invasions de routiers. Et on sait par exemple qu'en 1368-69, le Dauphiné a prévu 1000 hommes d'armes pour l'ensemble des châteaux du Dauphiné. Et sur ces 1000 hommes d'armes, nous n'en avons que 10 qui sont affectés à la défense du château de Queyras. Donc les archives nous permettent d'avoir ponctuellement des descriptions assez précises. On sait que par exemple, toute la tour avec l'escalier en colimaçon qui donne accès au donjon est entièrement refaite au XVe siècle. On sait également qu'on a du mobilier assez important qui meuble la chambre du châtelain, qui meuble la hola, la pièce de réception, donc les dressoirs, les coffres, les entraves, les sièges, les dressoirs pour dresser les assiettes au mur sur des étagères. Pour la partie médiévale, voilà, on a quand même pas mal d'informations pour reconstituer la vie de ce château et permettre aux visiteurs de s'y croire un petit peu.
Et suite donc à cette histoire médiévale, qu'est devenu le château à travers le temps ?
Le château de Queyras est resté longtemps non entretenu. Il s'est petit à petit dégradé. On a une première représentation qui est faite de lui par Jean de Bins, qui était géographe et qui a dessiné une carte du Dauphiné sur ordre de Lesdiguières. Et grâce à ce Jean de Bins, nous avons une belle représentation en perspective et un plan qui nous montre le château. Donc on est au début du XVIIe, mais le château a encore un aspect tout à fait médiéval. Il n'a pas été du tout modernisé. Et pour le voir évoluer, il faut attendre la fin du XVIIe siècle, avec la guerre de la Ligue d'Augsbourg et puis la fameuse invasion de 1692, où nous avons donc toute une armée du duc de Savoie qui passe l'école de Vars et l'école Saint-Martin et la Croix en Queyras, avec pour but d'envahir la vallée de la Durance, donc le royaume de France. Et cette invasion de 1692 a été totalement catastrophique, avec quantité de villes et de villages pillés, d'églises détruites, d'archives brûlées, sans oublier bien sûr les morts et blessés occasionnés par ce coup de main de l'été 1692 du duc de Savoie. Et donc suite à ce coup de main qui a sérieusement menacé cette partie du royaume de France, Louis XIV déplège sur place Sébastien Leprès de Vauban, son ingénieur en chef des fortifications. Et donc le château va faire l'objet d'un plan, d'un projet en 1692-93, réactualisé en 1700. Et donc Vauban est l'auteur des fortifications qui vont être rajoutées autour du château du Moyen-Âge. Et donc, dès la fin du XVIIe siècle et surtout courant XVIIIe, le château est petit à petit transformé en un fort moderne, un fort Vauban. Donc, c'est en fait toute la cour basse qui disparaît, qui est repartagée. Le donjon, la cour haute, différents bâtiments sont conservés. Et tout autour, on a toute une fortification Vauban avec courtine, bastion, canonnière, fossé, escarpe, contre-escarpe, tout le vocabulaire de la fortification moderne qui est édifié. Et ainsi, le château devient un fort qui va accueillir une garnison un peu plus conséquente et une garnison d'invalides, malheureusement. Ce dont se sont beaucoup plaints les capitaines successifs du fort, parce que je pense que beaucoup de gens connaissent l'hôpital des Invalides et la place des Invalides à Paris. Et cet hôpital avait été créé donc par Louis XIV pour accueillir les Invalides de ses armées. Et le succès de cet hôpital a fait qu'il est rapidement devenu beaucoup trop fréquenté. Et donc ont été créées des compagnies d'invalides, c'est-à-dire des compagnies de soldats blessés, mais jugés encore aptes à rendre quelques services au royaume de France. Et donc ces soldats étaient renvoyés au service finalement, mais dans des compagnies spécifiques d'invalides que l'on affectait dans les lieux du royaume de France où le danger n'était pas si important. Et donc tout au long du XVIIIe siècle, Fort Queyras accueille des compagnies d'invalides qui se révèlent plus ou moins aptes aux patrouilles, aux courses en montagne qu'on leur demande d'exécuter dans la vallée du Kéra.
Comment effectuer la visite et réserver ?
Alors, si vous souhaitez faire la visite du fort, vous avez deux solutions. Donc, le fort est ouvert en gros de la mi-juin aux journées du patrimoine. La visite est libre, première solution. Donc, vous appelez le fort au 06 44 72 89 89 et vous comptez une bonne heure et demie, deux heures pour avoir le temps de vraiment découvrir le fort et y prendre plaisir. Et puis, une à deux fois par semaine en juillet et en août, donc vraiment la période des vacances scolaires, il y a une visite guidée que j'assure. Le jour préféré, c'est le jeudi. Ça peut évoluer pour l'été 2020, mais si vous venez le jeudi, vous êtes à peu près sûr d'avoir une visite guidée, soit aux alentours de 14h30, soit à 16h30.